Il me reste à remercier les deux intervenants pour ces exposés vraiment très intéressants, très clairs. Je disais tout à l'heure en introduction que les géographes qui avaient quand même beaucoup travaillé sur les paysages s'étaient beaucoup intéressés aux paysages ruraux qu'ils estimaient finalement comme étant un petit peu le produit... les paysages, pendant longtemps, on les considérait un peu comme le produit de l'adaptation d'un groupe à un milieu naturel particulier. Et en géographie, on considérait que les paysages, ça devait être en quelque sorte l'expression durable de cette adaptation des groupes à ce milieu. Et que finalement, on voyait souvent en géographie le résultat des activités minières ou industrielles comme quelque chose qui créait des sortes d'artefacts. Que finalement cela allait évoluer progressivement, qu'il y a une succession un petit peu de paysages éphémères qui finiraient peut-être par disparaître. Donc, ce qui fait qu'à l'époque où on s'intéressait beaucoup aux paysages en géographie, c'est-à-dire plutôt avant la Seconde Guerre mondiale, on a produit beaucoup de thèses, de très belles thèses, surtout sur des paysages ruraux, et qu'après la Seconde Guerre mondiale, on s'intéressait moins aux paysages en géographie pour... retenir d'autres orientations, et au moment où on aurait peut-être pu justement s'intéresser beaucoup plus à ce moment-là aux résultats, parce que là les paysages industriels et miniers, comme ça a été évoqué ce matin, devenaient peut-être particulièrement spectaculaires à la fois par la taille des terrils et l'extension des carreaux de mine. Donc ça explique un petit peu pourquoi je disais, dans une certaine mesure, le paysage minier, en tout cas en géographie, ça a été un peu un mal-aimé, on n'en a pas beaucoup parlé, même si on a beaucoup parlé des activités minières. Je crois que les deux interventions qui viennent d'être faites, à la fois de M. Kerouanton et de Mme Faul, ont montré aussi assez bien le caractère parfois éphémère, de certains paysages. Certes, l'homme on ne peut pas comprendre le paysage que l'on voit actuellement sans penser à ses activités, mais finalement, ça n'est plus forcément toujours aussi immédiatement visible. Alors, je voulais peut-être qu'on peut, malgré l'heure tardive et le retard qu'on a pris, peut-être s'il y a des interventions ou des questions dans la salle, on peut se donner encore peut-être un quart d'heure, je crois que c'est prévu, à peu près un quart d'heure de questions. Oui, monsieur veut intervenir.
J'ai été un peu surpris justement de ce que l'on nous a dit du cas britannique, dans lequel finalement les traces de l'industrie houillère dans le paysage s'effaceraient, alors que par ailleurs, la Grande-Bretagne a été quand même la première terre de respect des bâtiments industriels antérieurs, développement de l'archéologie industrielle en Europe a d'abord été en Grande-Bretagne. Et il y a un peu une dissymétrie, justement, qui me surprend entre le cas général de l'industrie britannique, dont les édifices ont été respectés, renouvelés, réadaptés, et ce cas de l'industrie minière, qui semble au contraire avoir été très largement gommé. C'est cette opposition qui m'a surpris.
Yes, that's certainly the case.
Oui, c'est tout à fait vrai. Donc la décision qui a été prise, c'est que beaucoup des charbonnages avaient des bâtiments qui n'étaient pas conçus pour une utilisation à long terme. Les bâtiments de beaucoup de charbonnages étaient en briques ou en pierre, et souvent ceux-là ont été préservés quand c'était possible. Mais beaucoup d'autres bâtiments qui ont été construits étaient considérés comme temporaires. Et les bâtiments plus modernes étaient censés redevenir des paysages lorsqu'elles étaient terminées. Souvent, ils avaient des autorisations dans une région qui était rurale et qui n'aurait normalement pas dû accueillir le développement d'une activité industrielle, à la condition qu'en fin de compte, ils redeviendraient agriculteurs. La décision qui a été prise en Grande-Bretagne et dans l'ensemble de la Grande-Bretagne était qu'il serait mieux de préserver complètement une sélection de quelques bâtiments. Ce soir, je vous ai parlé que des charbonnages anglais. Si nous examinons l'ensemble de la Grande-Bretagne, la décision était la suivante. Nos mines devaient être préservées comme un bon exemple des charbonnages du 19e siècle. Chatley-Whitfield devait être préservé comme le meilleur exemple d'une grande mine du 20e. Lady Victoria en Écosse, qui fait partie du musée, devait être préservée comme un exemple d'une grande mine du 19e. Et Blicktin, dans le sud du Pays de Galles, devait être l'exemple modèle du 20e siècle. Et l'argent devait être consacré à l'entretien de ces sites plutôt que de sauver le paysage général. Bien entendu, beaucoup des charbonnages dans les zones plus urbaines ou les zones industrielles. Beaucoup d'argent a été utilisé pour les sites et un redéveloppement a eu lieu après la fermeture des terrils. Nous-mêmes, au musée minier et à Pit Pit, nous avons sauvé un sous-sol d'origine, ce qui coûte très cher. Je pense que ça n'est fait qu'en deux autres endroits, en Sardaigne et en Belgique. Et les ressources ont été consacrées à la sauvegarde complète de la surface et du sous-sol de deux mines et aux surfaces de deux autres mines, plutôt que d'essayer de sauvegarder l'ensemble du paysage. Ça peut considérer comme malheureux, mais c'est une décision qui a été prise vers les années 1990 au niveau national.